un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Aujourd'hui, on essaie de raconter deux histoires sur les personnes dites intellectuellement précoces ou à haut potentiel, anciennement nommées surdouées. Un sujet qui glisse entre les mains comme de la pâte slim, un sujet justement trop sujet, qui part dans tous les sens et se cogne un peu partout. Il y a un business de la précocité, des tests à 500 euros pour faire dépister votre enfant et lui obtenir ainsi un traitement de faveur de la part des enseignants ou un peu de pitié. Il y a de la souffrance véritable, heureusement prise en charge par une cellule spéciale de l'éducation nationale et de nombreux forums de discussion, de groupes de parole. Il y a de l'incompréhension et de l'élitisme, des clubs réservés aux plus intelligents et aussi des personnes stimulantes, géniales, curieuses. Tout de suite donc un sujet complexe avec deux récits très différents, voire divergents, dans leur façon d'aborder l'intelligence et le haut potentiel, Julien et Olivier, par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Julien, j'ai 25 ans. Je suis étudiant en médiation des sciences, en master, et je suis actuellement en stage dans un lieu de vulgarisation et de diffusion des sciences mathématiques et informatiques. Alors, j'ai grandi dans un milieu rural, à la campagne, dans une famille de classe moyenne populaire. Alors, mon diagnostic, ça a commencé, j'avais 5 ans, à l'école maternelle. Je m'ennuyais à l'école, je le disais souvent à ma mère, qui a commencé à s'inquiéter. Et par conséquent, elle m'a fait consulter une psychologue qui m'a diagnostiqué précoce, sans en dire beaucoup plus, et également en avance au niveau des mathématiques. J'avais assez dire le niveau d'un enfant de 8 ans en des mathématiques. Par conséquent, j'ai sauté une classe, puisqu'évidemment je savais déjà lire, pour arriver en CP, à l'école élémentaire. Alors, au primaire, je me sentais souvent un peu à l'écart des autres élèves. J'étais un peu l'intello, entre guillemets, de la classe, j'avais des bons résultats, etc. Et j'avais cette étiquette de précoce qui m'était accolée. Et donc, je me disais... C'est normal que je me fasse pas trop d'amis, puisque je suis pas comme les autres, puisque je suis précoce. Mais autrement, j'avais de bons résultats et ça se passait quand même pas si mal à l'école primaire et au collège, au lycée également, malgré quelques petits épisodes de harcèlement. J'avais une bonne mémoire auditive, donc j'avais bien réussi sans trop travailler. Et ça a basculé à l'université, puisque mes résultats ont brutalement chuté, parce que j'avais pas de méthode de travail, voilà. Et donc mes résultats ont chuté, et j'ai commencé à faire une dépression. J'ai fait un peu une crise existentielle en fait, me dire qui je suis. J'avais l'impression de m'être jusque-là un peu défini, j'avais basé ma personnalité sur mes résultats scolaires, en fait. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que c'est précoce, puisque je m'étais pas vraiment posé la question avant. J'ai voulu creuser un petit peu, parce que j'en savais pas beaucoup plus. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, et je suis rapidement tombé sur des termes comme HPI, haut potentiel intellectuel, zèbre. Et ce symbole du zèbre est assez controversé puisqu'à la base, il servait à désigner les personnes atteintes de maladies rares et il a été repris pour désigner les HPI. Donc je m'y suis intéressé, j'ai commencé à acheter quelques livres qui traitent du sujet et je me suis un peu retrouvé dans les descriptions de, entre guillemets, symptômes. Et par conséquent, j'ai fait le choix de passer un test de QI auprès d'une psychologue, quelques mois après, qui a abouti sur un test qui a donné comme résultat 135 de QI Et enfin, donc, elle m'a dit, effectivement, vous êtes au potentiel intellectuel, puisque vous avez plus de 130 de QI. Mais je vous suspecte également un TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, c'est une confirmation un peu de ce que je pensais après mes lectures. Je me retrouve dans les problèmes d'adaptation à la société, de décalage, d'avoir du mal à se faire des amis, etc. Ce qui a toujours été le cas chez moi. Et donc, je me suis dit, je vais aller regarder sur Internet, essayer de rencontrer des gens comme moi pour essayer de sortir un peu de cet isolement. Donc, je suis tombé sur des sites Internet, des groupes Facebook notamment. Alors ces communautés en ligne, ces groupes, ces forums, etc. effectivement m'ont donné un petit sentiment d'appartenance en me disant « ça y est, je suis pas tout seul, il y a des gens comme moi ». Et donc les gens parlaient entre eux de leurs symptômes, le fait d'être surdoué, et ils parlaient également de leur différence avec les gens non HPI. Mais j'ai été un peu surpris par l'ambiance qu'il y avait dans ces communautés, dans lesquelles je trouvais les gens un peu arrogants, prétentieux, donc je me suis pas vraiment intégré dedans. Mais vraiment, j'ai remarqué effectivement une sorte d'entre-soi où beaucoup de gens se retrouvaient. Et j'ai également remarqué qu'il existait des applications de rencontres entre HPI. Mais je me suis pas inscrit dessus. J'étais pas très à l'aise avec le terme de haut potentiel intellectuel et tout ce qui tournait autour. C'est assez proche des milieux New Age, du développement personnel, très très proche. Et de la forme d'élitisme qui est fréquente. Et j'étais mal à l'aise de dire « je suis plus intelligent que les autres ». Je me disais que vis-à-vis des gens qui n'étaient pas HPI, c'était quand même très prétentieux. J'aimais pas ça. Un jour où je traînais sur Twitter comme souvent, j'ai vu passer des tweets de gens qui parlaient de HPI en le critiquant. Donc ça m'a intrigué. Et je suis tombé sur plusieurs vidéos YouTube qui avaient des arguments que j'ai trouvé assez solides déconstruisant le HPI. Notamment le fait que le QI, déjà, sur quoi repose le diagnostic HPI, est assez controversé de plus en plus sur la façon dont il a été construit, sur sa conception, sa définition de l'intelligence, le réduisant en fait à un nombre, et ensuite pour les utilisations qui en ont été faites au XXe siècle, des utilisations dans des cadres racistes ou eugénistes pour sélectionner les meilleurs membres de la société. Et un argument qui revenait régulièrement également, c'est le fait que les personnes qui se disent HPI viennent régulièrement d'un milieu social privilégié, avec un cadre familial qui pouvait leur faciliter leur apprentissage, notamment à l'école. Le test de QI, il est beaucoup basé sur des tests de logique et de vocabulaire. Et c'est assez logique que des enfants qui viennent d'un milieu privilégié aient davantage de vocabulaire et réussissent probablement mieux certaines parties du test de QI que les enfants venant d'un milieu plus populaire. Et le prix de ces diagnostics et de ces tests, qui ne sont pas remboursés, puisque ce sont des tests pratiqués par des psychologues, sont nécessairement accessibles surtout à des personnes venant d'un milieu privilégié, ayant l'argent et les moyens pour investir dedans. Ce qui ressortait aussi, c'est le fait que le diagnostic entre guillemets HPI pouvait souvent cacher d'autres diagnostics tels que le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ou des troubles du spectre autistique. Donc ça m'a rappelé aussi le fait que la psychologue qui m'avait fait passer le test de QI m'avait dit que j'avais peut-être un trouble de l'attention. Je commence à réfléchir, à me dire pourquoi pas, ça peut peut-être être ça, mais ça prend du temps quand même, j'étais encore un peu dans le déni. Et j'y croyais pas trop. Pour moi, un trouble de l'attention, c'est toujours un enfant un peu hyperactif, qui bouge dans tous les sens, etc. Et c'était pas moi. Mais je me dis, bon, pourquoi pas quand même, au pire, je fais une consultation, et puis c'est pas ça, et puis tant pis, c'est autre chose. Si ça se trouve, j'ai faux sur toute la longueur, mais au moins j'essaye. Donc, il y a quelques mois, je prends rendez-vous avec une psychiatre, qui me propose de faire un diagnostic de trouble de l'attention. Donc, elle me fait remplir un questionnaire, et à la fin, le résultat tombe. Effectivement, j'ai un trouble de l'attention sans hyperactivité. Et ma psychiatre me propose la voie médicamenteuse pour traiter le trouble de l'attention. Donc là, c'est quelque chose qui change beaucoup, puisque quand on fait le diagnostic HPI, il en sort pas vraiment de solution. On dit, bon, tu es au potentiel intellectuel, bon courage. Alors que là, on a des solutions qui existent pour le trouble de l'attention. Donc j'ai commencé à prendre le traitement qui a marché assez bien sur moi, avec une meilleure concentration et plus de facilité à être dans la société, à parler moins vite, puisque j'avais tendance à parler sans articuler très vite. J'avais plus de facilité à organiser mes pensées. Et là, je me suis dit, bon, bah, effectivement, c'est que ça doit être ça. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. L'étiquette de haut potentiel intellectuel, beaucoup de gens l'utilisent et l'ont utilisé à tort et à travers pour désigner beaucoup de choses. Certains parents l'utilisent pour rendre leur enfant un peu spécial. Et je pense que aujourd'hui, le terme de haut potentiel intellectuel mène à une impasse pour beaucoup de gens. Beaucoup de personnes se retrouvent dedans et ne savent pas quoi en faire. Et le problème, c'est que si ces personnes, en réalité, ont un trouble de l'attention ou sont dans le spectre de l'autisme, eh bien, ça peut retarder leur prise en charge. Peut-être qu'elles pourraient justement trouver des solutions à leurs troubles beaucoup plus tôt dans leur vie et ne pas perdre plusieurs années à tourner dans ce monde proche du développement personnel. Voilà. Ce parcours, il m'a appris beaucoup de choses, et notamment au niveau de la définition de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce qu'il y a plusieurs intelligences? Et la question est toujours ouverte.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Olivier Muller, j'ai 45 ans et je suis journaliste. Je suis né dans les Yvelines, où je réside toujours actuellement. J'ai fait mes études dans le secteur privé, des études tout à fait standards, à Versailles également. Et puis j'ai poursuivi par des études de droit, en l'occurrence toujours à la fac de Versailles. Et j'ai terminé ensuite par des études de journalisme qui m'ont ouvert la voie du métier que j'exerce actuellement. En tant que journaliste, je travaille actuellement dans le domaine de l'horlogerie, qui est un domaine assez spécifique, mais c'est le seul sujet que je maîtrise à peu près sur lequel j'écris. Donc la question du haut potentiel s'est jamais véritablement posée pour moi durant l'enfance, tout simplement parce que l'essentiel de ma scolarité s'est déroulé dans les années 80 et début des années 90, et dans un établissement scolaire extrêmement traditionnel. Donc la question du haut potentiel n'était tout simplement pas évoquée, elle n'existait pas. D'autre part, j'ai eu une scolarité assez standard, sans éclat, et puis par la suite, la question s'est véritablement posée à la naissance de mon fils. Mon fils est né en 2005, il a eu une première partie de scolarité à l'école primaire tout à fait normale, mais lorsqu'il a poussé les portes du collège, 6e, 5e, il a commencé à avoir des difficultés de sociabilité, c'est-à-dire d'interaction avec les autres élèves. Les classes de 6e et 5e sont des niveaux où les écoliers entre eux peuvent parfois être très durs. Et nous avions un fils qui était en complet décalage par rapport à ça, extrêmement doux, extrêmement conciliant, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Et ça a fini par causer des problèmes assez graves dans son insertion dans le tissu scolaire et social, qui ont conduit tout naturellement à deux décrochages scolaires, pas bien méchants, mais quelques semaines à chaque fois, un en 6e, un en 5e. Et c'est à l'issue du second décrochage que sa maman a décidé de se pencher sur la question du haut potentiel. Et nous lui avons fait passer son premier test dans la foulée. Le bilan se décompose en deux parties en fonction de l'âge de la personne qu'il passe. Il y a ce qu'on appelle le WISC pour les enfants et le WAIS pour les adultes. Donc notre fils, en l'occurrence, à 11-12 ans, a passé le WISC, qui est le même test avec la même validité. Simplement, naturellement, les questions sont adaptées à un enfant, à sa vitesse de traitement et puis à sa culture générale. Ce sont deux tests de très grande notoriété qui ont été établis, si ma mémoire est bonne, dans les années 40. Et qui sont aujourd'hui reconnus sur le plan international sans la moindre ambiguïté. Donc il y avait une antenne périscolaire avec une psychologue qui était habilitée à faire passer ses tests et ses bilans de haut potentiel. Donc nous avons amené notre enfant là-bas, ça s'est déroulé sur un seul entretien, à la suite duquel un bilan complet a été dressé avec une remise du dossier papier avec un score de quotient intellectuel. En France, actuellement, selon les échelles en vigueur, le haut potentiel, c'est 130 minimum, donc 131 et au-delà. Lorsque le bilan de haut potentiel de notre fils nous a été remis, il avait 11 ou 12 ans, ça a été très difficile dans un premier temps pour nous parce que c'était un bilan très factuel, presque numérique, sans aucune spécification, sans accompagnement. Grosso modo, on vous rend votre fils avec un score, mais sans mode d'emploi. Donc il a fallu apprendre à nous débrouiller, c'est-à-dire à trouver des ressources à droite à gauche pour qu'il puisse comprendre, première étape, puis appréhender et enfin maîtriser et lancer son haut potentiel. Il a fallu faire comprendre à un enfant qui était quand même relativement jeune, 6e, 5e, qu'il avait un mode de fonctionnement un peu différent, qu'il allait devoir exploiter et s'adapter sans néanmoins se reposer sur des capacités. On utilise très souvent l'image d'un moteur de voiture pour comparer le haut potentiel à ce qu'il peut faire ou pas faire. Un haut potentiel, c'est un moteur qui est un peu plus puissant, qui peut tourner un peu plus vite. Les enfants, par exemple, les étudiants au potentiel, n'ont pas de facilité particulière. Ils apprennent peut-être un peu plus vite, un peu plus largement ou en profondeur, mais s'ils ne travaillent pas, c'est comme un moteur que vous laissez dans votre voiture, dans votre garage sans tourner, il ne se passera rien. Donc un enfant ou un étudiant au potentiel, il peut assimiler plus vite, mais il a besoin de travailler autant, même peut-être plus que les autres, pour combler sa curiosité permanente. Donc on a très tôt encouragé notre enfant à exploiter ce potentiel, c'est-à-dire tout simplement à travailler, beaucoup travailler avec beaucoup de méthodes. Donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement sur une année ou deux, avec des résultats qui se sont manifestés très très rapidement, puisque les résultats de notre fils se sont envolés de manière assez stratosphérique et n'ont pas arrêté en fait de grimper jusqu'à la fin de sa terminale qu'il est en train d'effectuer, sur lequel il a mention très bien sur la totalité de ses examens, de son bac, de ses spécialités, etc. Et puis, à l'issue de la première année de mise en route de ce haut potentiel, c'est toujours ma femme à l'époque qui m'a suggéré qu'il se pourrait qu'éventuellement le papa soit également concerné. Il y a eu comme un blocage, j'ai fermé les écoutilles très rapidement en me disant qu'effectivement je n'étais absolument pas concerné, que ça n'avait rien à voir. Et d'ailleurs, les preuves scientifiques, dirais-je, allaient dans mon sens et ça m'arrangeait bien puisqu'il n'y a aucun facteur d'hérédité du haut potentiel. Donc, lorsque j'avais entre 35 et 40 ans, elle a planté une petite graine que j'ai laissée mûrir, mais tout en faisant en sorte de ne pas l'arroser pour ne pas me confronter à mon tour à ce bilan. Et puis, arrivé à la quarantaine, à un moment donné, le déclic s'est fait de manière extrêmement abrupte par une femme qui exerce toujours, qui s'appelle Monique Kermadec, qui est une grande spécialiste du haut potentiel, qui a accompagné plus de 10 000 personnes en France. Et qui, dans une de ses vidéos, en conférence en l'occurrence, témoignait et ouvrait sa conférence de manière très claire en disant « Il n'y a qu'une seule manière de savoir si vous êtes au potentiel, c'est de passer le test. Il n'y a absolument aucune autre possibilité. » Donc j'ai décidé de passer le pas quasiment le lendemain. Lorsque j'ai reçu le résultat de mon bilan de haut potentiel, ça n'a pas été toujours évident. En fait, lorsque vous pénétrez cet univers, vous tombez d'abord sur le web, vous tombez sur des forums qui rassemblent à peu près la moitié des dépressifs de France, et puis vous allez progressivement sur des vidéos qui sont très pathologisantes, durant lesquelles vous voyez des enfants bavant sur leur coin de leur bureau en train de faire du Rubik's Cube toute la journée, et puis vous décidez de poursuivre avec des ouvrages plus ou moins ésotériques qui naviguent entre la véritable psychologie et le développement personnel, mais qui n'ont aucune validité ni scientifique ni psychologique. Donc il faut dans un premier temps se sortir de tout ce marasme qui n'est pas structuré. En revanche, j'avais repéré qu'il existait une association, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde, qui s'appelle Mensa, qui est une association au sein de laquelle on rentre uniquement sur présentation d'un bilan de haut potentiel, revalidé chez Mensa par un psychologue en interne, dirais-je, et qui permet de regrouper tous les hauts potentiels en France qui sont authentiquement certifiés, dirais-je, haut potentiel. Et ça me paraissait intéressant de rejoindre cette association parce que j'avais effectivement un besoin d'entrer en discussion, en relation, de créer des amitiés avec des personnes au potentiel qui partagent des capacités qui sont assez similaires, avec une ouverture d'esprit, une curiosité, avec lesquelles vous pourrez échanger peut-être plus librement. Et puis là, fait exceptionnel, lorsqu'on assiste aux premières réunions, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire, on rencontre des gens tout à fait sympathiques, autant d'hommes que de femmes, de jeunes que de personnes plus âgées, des gens en situation professionnelle normale ou au chômage, avec des enfants, sans enfants, mariés, divorcés. C'est-à-dire, c'est un échantillon peut-être plus restreint de la population française, puisqu'on pense qu'actuellement 2,8% de la population est concernée par le haut potentiel. Mais néanmoins, ces personnes que l'on croise dans l'association sont des personnes tout à fait normales et représentatives des gens que vous croisez dans la rue. Et au sein de l'association Mensa, il y a beaucoup d'activités qui sont réparties au niveau local, régional, national, européen et même international. Nous avons tout simplement un agenda, comme n'importe quelle association, durant laquelle sont proposées des sorties littéraires, artistiques, des jeux de société, des cinémas, des cafés, des concerts. Ce sont des activités tout à fait standards qui permettent de réunir les gens selon leur lieu géographique et puis selon leurs affinités et leurs emplois du temps. Ce qui différencie un dîner Mensa peut-être d'un autre dîner en ville ou avec des amis, c'est la curiosité. On est avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui ont tous des profils extrêmement divers, qui sont passionnés de choses parfois très très simples, de charpente, d'ébénisterie, d'astrophysique, d'insectes, de cinéma, que sais-je, etc. Et donc vous avez des discussions très animées parce que tout le monde a envie de tout connaître sur tout le monde. Donc ça, c'est assez intéressant. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est l'absence de jugement. Quel que soit votre profil, quel que soit votre degré de connaissance, quelle que soit la manière dont vous vous exprimez, personne ne va vous juger. Et puis la dernière chose, c'est le rebond sur les sujets. Il n'y a pas du tout de thématique, ce sont des dîners très ouverts, mais on arrive à brosser en 3 heures à peu près toute l'histoire des 20 derniers siècles, en passant de l'astronomie à l'astrophysique, la philosophie, l'histoire, parfois de manière extrêmement superficielle, ou parfois de manière beaucoup plus approfondie, mais il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de sujets. Tout ça se fait avec beaucoup d'entente, très amicale. Donc, on peut nouer très rapidement des amitiés très sincères avec des personnes qui partagent exactement le même fonctionnement intellectuel et cognitif. Donc il devient extrêmement difficile après de revenir sur des dîners en ville où les conversations sont assez conventionnelles, banalisées, avec un certain nombre de passages obligés, effectivement de petites discussions portant sur la famille, les enfants, la météo. Et c'est très très difficile de pouvoir tenir 2 heures, 3 heures, 4 heures sur des banalités qui sont des modalités d'usage de la sociabilisation en ville, pour le coup très largement superficielles. Après, il faut juste rester vigilant que ce cercle d'amis et ce cercle de réflexion ne soit pas un cercle fermé. Et il faut constamment lutter, dirais-je, un peu contre sa tendance naturelle à ne rester que dans ce milieu dans lequel on s'épanouit, pour essayer de garder un pied dans la réalité ordinaire et quotidienne, qui est celle dans laquelle nous évoluons tous, pour garder un minimum d'interaction sociale avec son environnement le plus proche, les amis, les collègues, etc. Le fait de me savoir au potentiel a évidemment changé l'appréciation qu'on peut avoir de soi-même. Ça peut expliquer certaines réactions qu'on peut avoir au regard de certaines situations professionnelles ou sociales. Ça explique certains traits de votre personnalité, certains traits de votre parcours professionnel, voire de votre scolarité. Mais fondamentalement, ça change pas grand-chose. Vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement sensible ou pas, de plus intelligent ou pas. Donc il ne faut pas non plus réorienter radicalement et subitement votre vie maintenant que vous avez un bilan de haut potentiel. On peut prendre l'analogie d'un moteur. Vous savez que vous avez une voiture qui peut aller un peu plus vite, un peu plus puissante que les autres. Il s'agit de l'exploiter intelligemment. Si vous voulez rester sur la file de droite à 110 km/h, ça ne changera strictement rien et vous mènerez une vie parfaitement heureuse de la même manière.
C'était Des gens plus intelligents, reportage de Timothée Doroglode réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Olivier et à Julien sur le sujet de la précocité, du haut potentiel. On écoutera ou bien on réécoutera avec plaisir les deux émissions d'Élise Andrieux dans Les Pieds sur Terre consacrées aux enfants qu'on appelait encore surdoués. Vous trouverez les liens de ces émissions sur la page des Pieds sur Terre grâce à Rita Ruggirello, notre stagiaire qui s'occupe de cette page, et à Céline Paris, notre attachée de production.